Autre radio, autre culture, bonjour. Alors, en ce samedi, nous recevons et nous avons la joie de recevoir Elisabeth Cooper. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Marion.
Elisabeth est pianiste et aussi chef d'orchestre, ce qui est quand même exceptionnel dans la vie de musicien français, de musicienne française.
Je pense que oui, nous sommes encore rares sur le marché.
Alors, j'ai lu un peu toute ta vie qui a été passionnante. Oui. Et je trouve que ce qui en ressort, c'est cette énorme activité à l'étranger. Es-tu devenue musicienne ? Non. Bon, je sais que c'est par amour de la musique. Est-ce que c'était par ce besoin d'aller justement au-delà des frontières ?
Au départ, bien sûr, on n'y pense pas du tout, puisque moi, au départ, c'était très simple. Mes parents aimaient beaucoup la musique. Personne n'était musicien dans ma famille, mais quand même, mon cher papa adorait l'art lyrique et il avait même passé un concours de chant, le concours Bélan. Et donc, lorsque j'étais petite, il y avait un petit piano dans la famille et maman a dit, ça serait bien que Elisabeth fasse du piano. Alors j'ai dit oui, très bien. Donc on a trouvé notre premier professeur. Donc je sortais de l'école et le professeur habitait en face. Et puis au bout de 6 mois, maman a reçu une convocation du professeur en disant, madame, vous savez, il faut que je vous parle. Que se passe-t-il ? Eh bien, votre fille, je ne peux plus rien lui apprendre parce qu'il faut qu'elle se présente au conservatoire. Ah bon ? Dit maman. Alors là, papa était quand même un peu soucieux, donc il a dit très bien, à condition que tu continues tes études. Donc j'ai continué mes études, j'ai passé mon bac philo tout en étant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Et j'ai compris quand même au bout de 6 mois que ma vie était entre ces touches d'ivoire, c'était ma passion immédiate. J'ai tout de suite compris que j'avais quelque chose à faire et que la musique me parlait déjà.
Et la volonté d'être professionnelle, c'était à ce moment-là ?
Alors, la volonté s'est faite au fur et à mesure, puisque j'ai fait mon parcours de toutes mes classes d'écriture, mes classes de piano. Et j'avais plutôt envie de découvrir, d'aller toujours au-delà. C'est-à-dire que chez moi, dès que je sens que j'ai atteint un certain niveau dans une certaine forme musicale, j'aime toujours aller plus haut, j'aime toujours m'améliorer, j'aime toujours découvrir. En fait, j'avais un esprit toujours d'aventure. Je suis une aventurière de la musique. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, un jour, pour me récompenser, on m'a offert une place pour aller voir le Lac des Cygnes à l'Opéra de Paris, alors quand j'ai mis le pied dans cette maison, je me suis dit, je ne pourrais plus sortir de cette maison. La circonstance s'est faite que je voulais également, comme toutes les petites filles, faire de la danse. Je vais m'inscrire dans un cours de danse, c'était à Comblaville, où mes parents ont fait construire une maison. J'arrive au cours de danse, le professeur de danse, on attendait le ou la pianiste qui n'est jamais venue, et on m'a dit, je lui ai dit, écoutez, je peux très bien essayer de jouer pour vous, et j'ai jamais pris le cours en tant que danseuse, je me suis mise au piano, les professeurs étaient danseurs à l'opéra, donc j'ai passé après un concours à l'opéra, et je suis devenue très vite une des pianistes préférées du corps de ballet de l'opéra. Jusqu'au jour où j'ai vu un ballet de Maurice Béjart au Théâtre des Champs-Élysées. Et là, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je rencontre Maurice Béjart. Je suis allée vers lui, il m'a engagée immédiatement. Et là, ce fut une histoire d'amour qui a duré jusqu'à son départ, son retour vers les étoiles le 22 novembre de cette année 2007.
Alors je sais que j'en avais discuté, on avait parlé un petit peu de toi avec Bernard Vistret. Et Bernard Vistret a dit, oui, elle, c'est la grande musicienne pour les ballets. Il a dit, il y a vraiment une concomitance, il y a quand même un lien très puissant entre elle et la danse. Alors, ça se traduit comment ?
Ça se traduit que, il est évident que je suis très, très touchée, j'ai beaucoup d'admiration pour Bernard. C'est vrai que j'ai plusieurs palettes. J'ai aussi accompagné les plus grands chanteurs, j'ai coaché les plus grands chanteurs tels Jesse Norman, j'ai fait 10 ans de récital avec Gabriel Baquier, j'étais assistante d'Irène Joachim. J'aime la musique sous toutes les formes. Alors avec le ballet, pour moi, le rapport avec la danse s'établit comme un rapport de musique de chambre. J'ai toujours voulu considérer que la danse méritait, parce que c'est un travail terrible, un charné d'une difficulté totale, méritait d'être compris par les musiciens. Et si vous avez le sens du ballet, comme le sens de la voix, comme le sens d'un violoniste, d'un flûtiste, le sens des autres, et plus tard la direction d'orchestre, le sens de l'orchestre, vous communiquez, vous dialoguez. Et donc, il y a cette espèce de respiration, d'osmose. Et ce que j'aime au fond, c'est partager la musique. Je n'aime pas être seule vraiment devant mon piano. Parfois, les circonstances m'ont obligée. Et de toute façon, on est quand même seul devant son instrument. Mais je préfère l'osmose, j'aime partager. Donc, on partage avec un violoniste, avec un violoncelliste, on partage la musique des chambres, on partage avec le danseur.
Comment ça se passe? Pourquoi le danseur aime plus particulièrement un musicien qu'un autre? Bon, il y a cette osmose, mais il y a quelque chose en plus. Non, qu'est-ce qui se passe?
Voilà, il se passe que si vous avez... moi, j'ai appris vraiment tous les termes chorégraphiques. Ça vous amuserait de me voir diriger l'orchestre, parce que je pourrais même corriger les danseurs sur scène. Je connais tous les pas. Enfin voilà, j'apprends tous les pas, un peu comme vous apprenez toute la partition, par exemple le texte des chanteurs dans un opéra, si vous Traviata. Pour moi, quand j'ai coaché Traviata ou quand j'ai dirigé Les Noces de Figaro, j'ai appris tous les rôles, toutes les paroles, pour comprendre exactement le rythme qu'il fallait adapter. Alors avec la danse, si vous connaissez les pas de la danse, vous saurez que par exemple, il y aura un danseur qui aura besoin de sauter un peu plus haut, donc je ralentirai par rapport à son mouvement. Et donc, c'est magique. Enfin, moi j'adore, j'ai toujours aimé, je quitterai jamais, je n'abandonnerai aucune de mes étiquettes, qu'on se le dise.
Par rapport pour un même opéra, mais avec deux danseurs étoiles différents, est-ce que vous avez une façon de diriger l'orchestre qui est différente?
Tout à fait. Alors évidemment, il y a certains ballets, par exemple, ça dépend des ballets, surtout les ballets dits du répertoire. Vous prenez le Lac des Cygnes ou Gisèle, qui sont de ballets dits de répertoire classique. Il est évident, et on ne peut pas non plus déformer la musique. Ben, tout va se dénouer, si vous voulez, dans la salle de répétition. Parce qu'il y a un pianiste qui fait répéter, et ensuite, l'orchestre vient pour être sur scène avec les danseurs, bien sûr, quand il y a la représentation. Alors, il faut que le chef vienne pendant les répétitions avec le piano, parce qu'on ne peut pas non plus dépasser un certain tempo, elle est trop lente. Mais évidemment, dans l'instant du concert, d'ailleurs c'est ce que font aussi tous les grands chefs dans le symphonique, je n'ai jamais vu Claudio Abbado, dont je fus l'assistante à 25 ans à la Scala, je ne l'ai jamais vu diriger deux fois pareil. Parce que la musique doit rester vivante. Donc un danseur qui aura besoin d'une danseuse, par exemple, comme Sylvie Guillem, qui est géniale, qui a une très grande des jambes magnifiques et des love très lents, eh bien, je vais développer, disons, mon geste avec l'orchestre selon le développement de sa jambe. Ça ne sera pas pareil pour une autre qui aura des jambes moins grandes qu'elle. C'est très intéressant, très intéressant.
Alors finalement, vous me faites penser un peu, parce que je vois le travail de Philippe en tant qu'ingénieur du son, qui par rapport aux gens qui se trouvent, aux artistes qui se trouvent en face de lui, va jouer avec ses instruments par rapport aux qualités.
S'adapte. Voilà. C'est pareil avec le récital des chanteurs. C'est extraordinaire ce que ça a pu m'apporter. Du reste, je pense que c'est d'avoir travaillé aussi avec des chanteurs qui m'a permis aussi de comprendre encore mieux avec la danse. Parce que le travail du lead, par exemple, travailler avec des chanteurs, les récitals, c'est extraordinaire. Il y a une espèce de... Je m'adapte. Je pense avoir, selon ce qu'a dit Bernard, j'ai... L'instinct, j'adore m'adapter. Moi, j'aime bien, je me laisse inspirer, voilà, c'est ça, par l'autre,
oui.
En fait. Mm-hmm. Enfin, je ne dicte pas quelque chose à l'autre. Sur le moment, je suis complètement en osmose avec l'autre.
C'est ça, donc ça s'entremêle.
Voilà, c'est absolument magique.
Et l'on a et du danseur,
oui.
Et du Elizabeth Cooper.
D'ailleurs, beaucoup de critiques ont dit que je danse au piano, on m'avait surnommé longtemps la danseuse au piano. Parce qu'il y avait cette espèce presque de geste de ma main qui fait que... Et à l'orchestre, c'est pareil. Je dirige du reste sans partition. Tout par cœur pour le ballet. C'est beaucoup plus facile. Parce que vous avez comme ça le plateau devant vous et vous pouvez gérer les musiciens, les regarder avec un petit sourire pour obtenir de ces messieurs un peu plus de souplesse.
Et les rapports avec les orchestres d'opéra, comment ça se passe?
Alors, écoutez, c'est assez compliqué. Mais je dirais que ce n'est pas le fait d'être une femme, parce que tout le monde dit oui, une femme, non. C'est qu'en général, c'est compliqué d'être chef d'orchestre, pour un homme ou pour une femme. Parce qu'à partir du moment où vous avez devant vous plus de 4 personnes, quand on est en musique de chambre, vous avez le trio, le quatuor, le quintet, le sextet. Mais après, déjà, c'est une cohabitation, ça devient, quand il y a un groupe, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Parce qu'il y a des gens, et c'est certes, qui n'aimeront pas qu'une femme dirige. J'ai pas encore rentré dans les mœurs en France. C'est très difficile. Et souvent, c'est pas les hommes qui n'aiment pas, ce sont les femmes qui n'aiment pas. Une femme qui vient diriger pose problème à des femmes. Moi, j'ai eu un cas comme ça, dans un orchestre que je dirais pas, en France, en province, où il y avait une chef d'attaque qui ne me regardait pas. Dès que je donnais une attaque. Alors, j'ai parlé avec elle, j'ai essayé de concilier avec elle, parce qu'elle supportait pas qu'une femme ait l'autorité. Voilà. Alors, on a droit à des blagues, mais je pense que les orchestres font toujours ça, parce que si vous voulez aussi, les orchestres reçoivent énormément de chefs différents. Donc, parfois, il y a des chefs qui viennent pour la première fois diriger un opéra ou un ballet et qui s'essayent devant l'orchestre. Il faut dire que quelquefois, c'est difficile aussi pour eux. Donc, ils vous jugeront au bout de 10 minutes, même s'il y a des petites blagues qui sont faites. Moi, j'ai eu droit à des corps qui faisaient des fautes exprès pour savoir si j'avais vu qu'ils avaient fait des fautes. J'ai certains contrebassistes qui ne me regardaient pas pour les pits parce qu'il fallait leur donner leur attaque. Mais au bout de 10 minutes, comme je ne me laisse absolument pas déboussoler et que je suis très, très, très préparé à l'avance. En général, tout va se jouer dans les 10 premières minutes. Si vous savez transmettre la musique, vous avez le respect de tout le monde. Voilà.
Est-ce que vous sentez des grosses différences au niveau caractère entre un orchestre français ou un orchestre allemand ou anglais ?
Je ne dirais pas ça. Parce que les gens... beaucoup de monde, non. Le niveau, non. J'ai quand même l'occasion de diriger que des orchestres de haut niveau, non, non.
Au niveau caractère, je dirais, pas au niveau musical.
Ah, oui, évidemment, par exemple, bon, c'est vrai que les Allemands sont quand même exceptionnels. Il y a une autodiscipline. Il y a de la discipline ici, mais c'est vrai que quand on a l'occasion de diriger l'orchestre à Berlin, comme c'est mon cas, ou à Hambourg, il est vrai que ce sont des gens qui ont une espèce de fierté d'exister en tant que musicien d'orchestre. Or, il y a beaucoup plus ici de musiciens qui se sentent un peu frustrés d'être dans une fosse. Or, je pense que c'est au contraire. Il faut être fier d'être dans une fosse d'orchestre. Moi, j'ai jamais été considérée frustrée qu'on dise que vous êtes la meilleure accompagnatrice. Au contraire, je trouve que c'est un art magnifique, l'accompagnement. C'est un art magnifique. Je me sens jamais accompagnatrice. Je me sens musicienne au service d'un art. Voilà, pour moi, c'est évident.
Moi, ça me paraît surprenant qu'on puisse être frustré d'être musicien dans une fosse d'orchestre.
Moi aussi, je suis comme vous.
Parce qu'il faut quand même passer des concours, il faut quand même être exceptionnel au niveau musicien.
Mais oui, mais vous savez, le problème, voilà, vous savez, je vais répondre encore plus précisément à votre question. Je pense qu'en France, malheureusement, dans les conservatoires, on nous forme pour être des solistes, mais pas des éléments de groupe, et c'est une grave erreur. Parce que dès l'enfance, moi j'ai remarqué ça quand j'étais en classe de piano au conservatoire, je disais à ma maman qu'elle attende au café, parce qu'en général, quand la feuille arrivait, c'est sur les mères qui se précipitaient, et on faisait les enfants prodiges. Or, les enfants prodiges, après 18 ans, on n'est plus enfants prodiges. On vous forme pour passer des concours internationaux, et donc on ne vous forme pas dans l'idée de la musique. Et la musique, c'est pas d'être seul. C'est le dialogue. Et voilà l'erreur qui est faite en France depuis le départ.
Ah, vous me faites penser à une réflexion d'une amie qui est adulte et qui est en train d'apprendre le violon. Et elle n'a pas choisi un instrument facile, mais bon.
Très difficile, le violon.
C'est très difficile.
Plus que le piano, je
voilà.
trouve.
Et elle était furieuse après le conservatoire où elle allait, parce que ça faisait donc 3 ans qu'elle était inscrite au conservatoire. Et le directeur du conservatoire lui a dit « Non, non, nous on fait les classes d'excellence pour les enfants, on ne fait pas pour les adultes. De toute façon, vous, on ne va pas s'amuser à faire des classes individuelles pour des adultes. Ou vous travaillez à 5 ou 6 ensemble, ou rien du tout. »
Non, je trouve que cette idée de m'a fait peur. Moi j'ai eu peur, c'est pour ça que j'ai fui au fond. J'ai tout de suite compris qu'il fallait que je sois dans un théâtre. Parce que quand j'ai vu ça, ça m'a fait peur, ça m'a fait fuir. C'est une idée complètement fausse. On vous forme ici uniquement dans l'idée d'être un soliste. Donc après, il y en a certains, s'ils ne sont pas assez solides, eh bien, qui sont frustrés. D'où la frustration, d'où... moi, j'ai entendu certains musiciens, quand même, dès qu'il y avait certaines musiques de ballet, rire, chanter dans la fosse d'orchestre, parce que, par dépit. Je trouve ça complètement inconvenant par rapport au plateau, par rapport aux danseurs. Je suis très choquée. Non, il faut respecter les autres.
Je sais aussi qu'au niveau du studio, on a eu des musiciens solistes qui ont travaillé avec d'autres musiciens. Et on avait beaucoup de mal à ce qu'ils soient à leur place au sein du petit orchestre.
Mais ils ne peuvent pas.
Ils ne peuvent
pas. Moi, c'est ce que je préfère, c'est m'adapter, j'ai d'être avec les autres. Donc, c'est une démarche complètement différente.
Alors, à votre avis, en ce moment, quels sont les problèmes de la musique classique en France particulièrement ?
Le problème de la musique classique, il faudrait déjà que, je pense, qu'on puisse, dès l'école, intéresser plus, que ce ne soit pas seulement les gens qui passent un bac option musique qui puissent faire de la musique, et que la musique soit quand même un peu plus popularisée, que les gens puissent aller au concert ou à l'opéra, les prix, c'est pas possible. Je vois par rapport à l'Allemagne, par rapport au pays, enfin en Russie ou même en Chine, pourquoi il y a plus de pépinières d'artistes aussi ? Parce que les gens peuvent s'acheter des places. C'est impossible pour une famille avec 4 enfants d'aller écouter un opéra, l'opéra Bastille, un opéra populaire, ou d'aller dans les salles de concert. On peut pas non plus. Donc il faut essayer quand même de donner un peu plus d'ouverture pour la musique classique. Il faut arrêter je ne sais pas pourquoi nous, on n'a pas le droit d'être dans des stades aussi. Il y a longtemps que moi, j'ai envie de faire du piano dans les stades. Et on ne peut pas. On ne peut pas, c'est réservé à une élite. Non, je ne suis pas d'accord. Je vous assure que si je joue une mélodie de Beethoven ou de Mozart ou de Schubert à quelqu'un qui ne connaîtra pas, la plupart du temps, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon festival à Annecy, puisque les gens viennent, prennent des billets, mais c'est gratuit, c'est justement tout le monde est étonné de voir « Ah, mais qu'est-ce que c'est beau, j'entends toujours ». Ben oui, c'est beau parce que vous l'entendez pour la première fois, parce que vous ne pouvez pas vous payer des concerts classiques, c'est tout.
J'étais étonnée, moi, quand j'avais été aux États-Unis, j'étais adolescente, j'allais dans un lycée américain, et on avait, dans ce lycée américain, donc à New York, enfin à New Rochelle plus exactement, on avait des pianos pratiquement dans toutes les pièces. Ah, oui. Il y avait une salle de théâtre et de représentation au sein du lycée, et non seulement il y avait cela, mais il y avait également les enfants, enfin les adolescents du lycée, où il y avait un orchestre du lycée.
C'est merveilleux, ça. Ben exactement, qu'est-ce qu'on attend pour faire ça ici ?
Oui, alors pourquoi on ne le fait pas ?
Parce que je vous dis, ça fait partie de la même réflexion. Regardez, il y a l'orchestre merveilleux qui s'est créé, l'orchestre au Venezuela et à Cuba et partout, avec tous ces jeunes qu'on a été ramassés dans la rue, pourquoi on ne le fait pas ici ? Je suis d'accord avec vous. Moi, si j'avais un orchestre, moi, c'est ce que je veux. J'essaie, je voudrais avoir mon propre orchestre. Mais c'est impossible, parce que je vais me heurter à il y a tous les autres, et les institutions, des barrières, des tout. Mais moi, c'est ça, je voudrais faire un orchestre classique avec des enfants de la rue. Ah, ça me passionnerait 1000 fois plus que d'être à la tête de l'Orchestre de Paris, comme directeur musical, alors, croyez-moi.
Je sais qu'à La Rochelle, à l'époque, il y a quelques années, il y avait ce qu'ils appelaient les classes CHAM. CHAM, ils ont enlevé le nom parce qu'il y a eu un procès avec des parents d'élèves, bref. Donc, ils avaient des horaires aménagés pour la musique. Et je pensais que dans chaque lycée français, ça existait.
Ah non.
J'ai été très très naïve. Et quand je suis arrivée à Toulon, je me suis aperçue en fait que dans les lycées et les collèges toulonnais, non.
Il n'y a rien du tout.
Il n'y avait rien.
Strictement rien.
Il n'y avait rien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui les empêche chaque ville de créer justement ces classes avec horaires aménagés pour que ce soit le piano, la musique,
ben
la
oui,
danse,
moi c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut vraiment il faudrait absolument faire passer une loi dans la culture, que ça soit justement, enfin dans la culture aussi par rapport à l'enseignement, avec le ministre de l'Éducation nationale, parce que je pense que c'est dès l'école qu'il faut faire ça. Il y a comme ça qu'on peut développer l'envie aux gens de faire la musique. Voilà, c'est la même chose dans l'Opéra National d'Opéra ou ailleurs. Nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas de troupe de chanteurs. Moi, je fus directrice des études à l'Opéra de Bonn. Et dans chaque pays en Allemagne, dans chaque ville d'Allemagne, il y a une troupe de chanteurs. Vous ne pouvez pas faire des débuts s'il n'y a pas de troupe, c'est impossible. Après, les chanteurs qui sortent des écoles du Conservatoire National Supérieur ou du CNR ou des autres conservatoires n'ont pas de travail. Alors que si vous avez des troupes, pourquoi aller chercher pour faire des petits rôles dans un opéra ou dans Parsifal ou dans n'importe quoi, dans la Traviata ou dans Don Carlos, on va chercher des Américains au lieu de prendre des chanteurs de l'école. Je n'arrive pas à comprendre.
À niveau égal.
Mais exactement, absolument. Et à ce moment-là, vous avez des gens qui vont les former, qui s'appellent des chefs de chant. Moi, j'ai été chef de chant, qui leur apprennent les rôles et tout ça, qui les forment. Et puis voilà. Alors, il n'y a que le ballet de l'opéra qui a une école. l'école du Ballet National de l'Opéra, et l'école conduit à rentrer dans la troupe de l'Opéra. Mais il n'y a absolument pas ça pour la musique, il n'y a pas ça pour les musiciens, et il n'y a pas ça pour les chanteurs. Donc il y a une erreur énorme qui devrait être établie. C'est l'urgence, elle est dans ce pays, de mettre au programme des écoles de la musique, de la danse, une possibilité de pouvoir le faire. Et c'est comme ça qu'on commencera à évoluer.
Le président de la République, lorsqu'il est arrivé au gouvernement, avait décidé justement que, au sein des collèges, des écoles primaires et même des lycées, que l'on puisse augmenter ses heures de cours au niveau de la culture générale de la musique.
Ça fait partie de la culture. La musique, pardon de vous interrompre, la musique fait partie de la culture générale pour moi. J'ai toujours entendu de la musique étant petite, en même temps que je lisais. Pour moi, c'était comme ça. C'est pour ça que je suis arrivée là où je suis, parce que depuis toute petite, mes parents, qui étaient vraiment d'origine modeste, qui sont des gens merveilleux, mais m'ont donné la possibilité justement de pouvoir avoir cette palette de choix. Mais je pense que notre président, que j'admire énormément, il faut lui proposer. Je vais lui proposer, moi, tout ça. Je vais insister, je vais être tenace. En tant que capricorne, j'irai jusqu'au bout. Mais je pense qu'on peut lui proposer. C'est quelqu'un qui attend aussi des propositions.
Justement, parce qu'on parlait de l'éducation nationale, je sais que tu es particulièrement intéressée par l'enseignement, par le passage
essentiel.
Ouais, le passage de cette culture musicale.
J'adore enseigner. Il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, je donne des masterclass tous les étés. J'espère pouvoir avoir d'ailleurs un poste dans l'enseignement, parce que j'adore transmettre. Il n'y a rien de plus gratifiant que de pouvoir donner mon énergie. En plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enseignants, mais je peux dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas transmettre, parce qu'il faut être généreux pour transmettre. Moi, je n'ai pas peur de transmettre. Plus il y aura de bons musiciens, mieux c'est formidable. Je peux enseigner à des violonistes pour le style, je peux enseigner aux flûtistes, à tout le monde. D'ailleurs, bien souvent, beaucoup de mes amis musiciens professionnels m'envoient leurs enfants de toutes les disciplines pour leur donner justement le sens. J'adore donner des cours d'interprétation, donner mon expérience, le sens de la respiration, former des pianistes pour le ballet. Ça, j'aimerais le faire aussi. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire ici. C'est ça qui est passionnant aussi, finalement.
Est-ce que les jeunes que tu reçois actuellement, ou que tu recevais il y a 10 ans ou 15 ans, est-ce qu'il y a un changement, il y a une évolution dans le caractère de ces jeunes, dans la manière d'apprendre et de recevoir les choses?
Ah oui, il y a une grande demande, je trouve. Il y a une grande demande, finalement, chez les jeunes. Moi, j'ai chez moi, justement, actuellement, j'ai plusieurs catégories de musiciens. J'ai un jeune homme magnifique qui compose et qui, en même temps, qui va passer son bac musique. Et c'est extraordinaire parce qu'il a vraiment, ce sont des gens passionnés. Puis en plus, ils veulent adapter ça avec des musiques plus contemporaines, plus modernes, même avec le jazz, parce que ça peut déboucher sur beaucoup de choses. Ça peut déboucher sur des métiers d'ingénieur du son. Ça peut aller très loin. Il y a une grande demande, je pense. Parce qu'il y a une grande solitude chez les jeunes actuels. Ils sont tellement confrontés, beaucoup plus que nous, aux problèmes de la réalité actuelle. Donc je pense qu'il y a une forte demande. Et c'est en ce moment qu'on peut construire quelque chose de nouveau.
Donc tout est ouvert.
Ah oui, pour moi, je suis très optimiste.
Tu me dis que maintenant, ton thème astral est faux.
Oui, il y a eu une petite erreur. Mais enfin, non,
pourtant,
mais enfin bon.
On disait que tu étais quelqu'un de très optimiste, avec une indépendance d'esprit qui te permet d'aller. Tu ne cèdes pas et
jamais.
Tu vas jusqu'au fond.
Ah non, je vais jusqu'au bout. C'est un parcours jusqu'au du bout. Combattant, je dois dire. Parce que, curieusement, alors moi, je suis une espèce d'idéaliste, même si j'ai eu, comme tout le monde, des difficultés. Parce que la vie, quand même, est une succession de joies et puis d'épreuves. C'est normal. Hein, je ne suis pas l'unique dans ce cas. Mais j'ai toujours gardé un grand optimisme. Et surtout, je suis tenace. Tenace.
Oui, c'est ce qui est dit. Une femme qui ne renonce jamais devant l'obstacle.
Jamais. Je monterai un tout petit peu, un demi-centimètre la montagne, mais je la continue à la gravir. Jusqu'à l'Annapurna.
Quel est ton calendrier dans les mois prochains?
Alors, j'ai le grand bonheur, grâce au ballet de Hambourg, de revenir dans mon pays. Donc, je vous invite tous entre le 16 et le 20 avril au Théâtre du Châtelet. J'ai créé avec John Lemeyer, qui est un grand chorégraphe. Bien sûr, j'ai toujours été très lié avec Maurice Béjart, puisque j'ai transcrit le Ring de Wagner pour lui, qui m'a fait remporter le grand prix de la critique des journaux de Berlin, de la presse berlinoise en 91. Et John Lemeyer, qui est un grand chorégraphe, a fait appel à moi il y a 3 ans. Il a conçu un ballet d'après le livre de Mann, La mort à Venise, mais Il n'a pas voulu justement utiliser, comme dans le film de Visconti, la musique de Mahler. Il a choisi, pour la rigueur du personnage d'Aschenbach, il a choisi l'offrande musicale de Bach. Et lorsque il va à ses pulsions, c'est toute cette espèce de romantisme fou des œuvres que Wagner a écrites pour le piano et des transcriptions de Liszt de Wagner. Donc j'interprète la sonate pour Mathilde Wesendonck, Élégie, la mort d'Isolde de Liszt. C'est entre le 16 et le 20 avril au Théâtre du Châtelet. Ensuite, il faudra que vous preniez l'avion, ma chère Marion, pour aller me voir diriger la symphonie pastorale de Beethoven au Festival de Murcia en Espagne, chorégraphié par mon ami Victor Ulat, étoile, et qui est à la compagnie de la Gominidad de Madrid. Voilà. Et puis ensuite, bon, je passe. J'espère reprendre un spectacle. Il y a des pourparlers dans un grand théâtre parisien, parce que j'ai un metteur en scène qui a fait autour de moi toute une espèce de spectacle musical autour de l'intégrale des valses de Chopin. Mais ça a été créé au théâtre de Nîmes, puis repris au théâtre de Nice. Ça s'appelle « Comment en finir définitivement avec les 14 valses de Chopin ?» Donc j'ai un homme à côté de moi, un personnage, un monsieur loyal, et tout se passe avec des anecdotes, avec des choses qui arrivent dans le spectacle. C'est un spectacle mis en scène autour de moi, donc je n'ai pas encore les dates précises. Et je vous invite, bien sûr, au Festival d'Annecy, dans le cadre de l'hôtel Imperial Palace, entre le 3 et 9 août, où je suis directrice artistique. Ça s'appelle Plaisir de musique. Et là, vous allez découvrir, cette année, un groupe cubain, des masterclass que je donne avec des chanteurs. Mon groupe aussi de Imperial Chamber Orchestra, qui est constitué de l'élite des musiciens de France, des orchestres français. Et je découvre chaque année un nouveau prodige, donc soit du violon issu de concours internationaux, soit un flûtiste. Et cette année, c'est une jeune russe qui a eu le prix Long-Thibault cette année, qui viendra jouer chez moi. Et je rendrai également un hommage à Rostropovitch, que j'ai eu l'occasion et l'honneur d'accompagner. Je vais donc rendre cet hommage avec mon ami Dominique de Villancourt, qui avait remporté le prix Rostropovitch. Donc je rends un hommage à Rostropovitch. Donc vous êtes tous conviés à l'hôtel Imperial Palace entre le 3 et 9 août. Je compte sur vous.
Ça, c'est... Merci beaucoup, Elisabeth. J'ai été ravie de te recevoir. Et puis j'espère que cela se renouvellera très souvent.
Je suis complètement à ta disposition, à la disposition de mon art. Et puis aussi pour transmettre cette passion qui est extraordinaire, parce que quand on fait de la musique, ça ne s'arrête jamais. C'est une merveille.
Merci. Au revoir tout le monde. Ici Autre Radio, Autre Culture. À bientôt. Autre Radio, Autre Culture.